Vous avez entendu dernièrement sur notre antenne un reportage sur le laboratoire CNRS de Moulis avec une évolution depuis sa création. Et justement, c'est son histoire que va nous raconter ce soir Raymond Gavard dans Mémoire du Couseron. Raymond, bonjour.
Ben oui, voilà, il s'agit de Moulis, centre de recherche. Alors, c'est vrai qu'on parle quand même régulièrement du village de Moulis, de son magnifique unique marbre noir en grand antique, donc, qui est extrait de la carrière d'Aubert. J'avais aussi évoqué son célèbre curé Paulette. Mais à Moulis, il y a aussi quelque chose d'important, c'est le laboratoire du CNRS, dont beaucoup quand même ignorent sa spécificité de l'époque, puis actuelle. Donc, auditeurs fidèles et curieux, j'espère, bonjour, et partons cette semaine à la découverte de cette structure couseranaise, moi je dirais encore une belle histoire. Alors savez-vous que ce laboratoire souterrain du Centre National de Recherche Scientifique, donc, et au départ c'était le CNRS, était unique au monde. C'est le professeur René Jamel, donc, qui, en 1945, avait lancé l'idée de créer un laboratoire souterrain. Alors, bien sûr, il va fournir un cahier des charges très précis, et on se mit donc à prospecter, pour trouver une grotte assez vaste, de l'argile, des cours d'eau souterrains, si possible un accès facile et proche d'un réseau électrique, avec des terrains appropriés, donc, ou propices du moins à la construction en surface également dans une région calcaire. Et alors, après de longues recherches un peu partout, en France, le choix va se porter sur la grotte de Moulis, dans les Pyrénées centrales, donc, située au centre d'une région tout à fait remarquable, d'une part par sa richesse en cavités souterraines, puisqu'on a recensé, il y a fort longtemps bien sûr, plus de 250 grottes, donc, et ce, dans un rayon de 25 à 30 kilomètres. Et alors l'originalité du milieu cavernicole, donc, qui est connu depuis le XVIIe siècle, mais quand même il fallut attendre le début du XXe pour que la spéologie devienne une véritable discipline scientifique. De nombreuses grottes furent ainsi visitées, et finalement, le 4 mai 1947, une commission de spéologie, dirigée par le professeur Jamel, va porter son choix sur Moulis. Et c'est ainsi que le laboratoire fut créé en 1948. Et c'est M. Albert Vandel, membre de l'Institut, qui va être chargé, donc, d'une part de la construction et des divers agrandissements successifs qui feront que, dans les années 80, de Moulis, le plus grand laboratoire souterrain du monde. Et on n'imagine pas, vous voyez, à l'époque, dont le travail qui a été fait. Alors, je pense, d'ailleurs, à ce sujet, que bon nombre de compatriotes, d'auditeurs, donc, vont découvrir l'existence, surtout l'importance, dans notre petit pays du Couseran, un peu perdu au pied des Pyrénées, d'une telle structure. Et c'est donc un peu mon objectif, quand même, que de mettre en valeur ce patrimoine, parce que ça en est un, également les hommes qui ont contribué à la réalisation et à son développement, puisqu'il n'a cessé de se développer après des périodes, bien entendu, plus calmes. Voilà. Et alors, le bassin du Salat et du Lès se caractérise par de nombreuses grottes et cavités, dont certaines très célèbres, comme le gouffre de Haine-Morte, il y a un gouffre qui a été baptisé, et qui est un des plus profonds, si ce n'est le plus profond de France. Et alors toutes ces grottes, et comme j'ai dit, entre 200 et 250, sont particulièrement riches en faune cavernicole. Et celle de Moulis traverse des couches subverticales d'une dolomie noire à petit quartz, datée du Jurassique moyen, Ça, c'est des termes que j'ai relevés, je ne m'invente rien, hein, parce que j'ai découvert moi aussi, comme vous peut-être, hein, tous ces termes techniques, hein, et dont l'exploration s'est effectuée en plusieurs étapes, forcément. Et elle est constituée dans une galerie presque horizontale de plus de 650 mètres de long, pour conserver ainsi l'entrée naturelle, qui était d'ailleurs trop étroite. On a percé à l'époque à proximité un petit tunnel d'une cinquantaine de mètres et qui donne ainsi un accès direct. Alors la première partie qui fut reconnue, c'est une galerie de 250 mètres de long avec une pente douce qui se termine par un siphon. Et en amont de ce dernier, il y a encore une autre galerie de 500 mètres environ qui aboutit également à un autre siphon. Par contre, lui, à l'époque, infranchissable, et avec une partie supérieure seulement découverte dans les années 61, je crois. Voilà. Et c'était M. Bouillon, qui en a certains l'ont connu, ou de nom, de réputation également, donc, qui avait découvert ça. Et cette galerie s'élève verticalement sur une centaine de mètres, pour se terminer par une vaste salle, qui sera baptisée salle du totem. Et alors, elle est faite d'une succession de boyaux étroits, de galeries, de salles, d'élargissements différents, bien sûr, et également de lac artificiel. Alors, deux cavités qui culminent à plus de 15 mètres, et toutes ces salles seront aménagées par les chercheurs, enfin, du moins pas mal de salles, et seront baptisées salles des mineurs. Alors de l'argile, également beaucoup de surprises, des fleurs de boutures, Vandelle, qu'on avait un peu baptisé du totem également, hein, puisque c'était lui quand même le grand découvreur. Et alors plus en amont aussi, il y avait la galerie qui se dédoublait avec une galerie des siphons. Ça, c'est des baptêmes qu'on leur avait donnés. Galerie du jardin suspendu. Et cette situation qui est très intéressante, donc, pour le géographe, mais aussi pour le minéralogiste, qui peut admirer ainsi la cristallisation de calcite ou d'aragonite. Hein, c'est une qui est cette pierre scintillante, donne de plumée d'aiguille. Et ça, je vous en parle parce qu'il y a peut-être 25-30 ans, on m'avait fait cadeau de cette pierre. Et j'avais été surpris, on m'avait dit c'est une aragonite. Voilà. Donc j'avais noté ça, une aragonite, et ce n'est que bien plus tard quand j'ai découvert donc qu'il en existait donc à Moulis, voilà. Et toute cette aragonite donc recouvre les parois. Alors il paraît que c'est un émerveillement, donc surtout lorsqu'il y a un petit éclairage, voilà. Donc ça mériterait éventuellement d'être aménagé, donc, enfin d'être du moins visible, voilà. Alors bien sûr il a fallu énormément de travaux, et les premiers aménagements donc de cette grotte laboratoire pour l'élevage de divers animaux cavernicoles. Et ceci, tous ces aménagements vont durer environ 3-4 ans. Alors au départ, au tout début du moins, il y avait trois salles. Il y avait également aménagé avec une vingtaine de tables. Et ce fut l'œuvre du moins de M. Fourès, donc qui s'en était chargé. Il y avait également un grand bassin, hein, pour l'élevage des protées. On va y installer l'eau courante et également l'électricité. Et donc, vous voyez, c'est une grosse, quand même, entreprise. Et alors, au sujet de l'électricité, et ça me fait plaisir d'en reparler, parce que c'est précisément mon père qui fut chargé de cette installation électrique, assez particulière pour l'époque, très particulière d'ailleurs, donc, puisqu'il avait fallu se raccorder au réseau électrique. Le courant était ensuite ramené par d'importants transformateurs à une tension de 24 volts, ce qu'on appelle une basse tension, et on se l'explique pour pas que ça soit dangereux, Et il n'était pas question d'y amener du 110 volts, puisque à l'époque on était en 110 volts, il y a encore au moins du 220. Donc tout était en basse tension, 24 volts. Et le raccordement des diverses salles donc, fut donc réalisé avec cette basse tension. Ce courant à l'époque circulait avec des lignes en fil de cuivre, même parfois en aluminium, hein, parce qu'il faut se mettre dans le contexte, c'était quelques années après-guerre, donc le cuivre était relativement rare, hein, et tout cela était protégé dans des tubes d'acier noir, ce qui avait nécessité un appareillage spécial pour le centrage de ces tubes, hein, parce qu'il fallait suivre les courbes des galeries. Et également, il avait fallu les fileter pour faire un raccordement étanche. Et vous voyez, c'est un travail considérable, donc. Et c'est mon père, je parle pratiquement seul ou avec une aide, donc, qui avait réalisé ça à travers les galeries. Et donc, il fallait être, bien sûr, attentionné, hein, dans ce milieu particulièrement humide également. Et à ce sujet... moi, quand j'avais envisagé de faire cette émission, j'en avais fait déjà une il y a fort longtemps, et c'est vrai qu'à l'époque, il m'était revenu dans ma mémoire, vous voyez comme quoi j'ai bonne mémoire, hein, un vague souvenir. Ça devait être dans les années 1952. J'étais tout jeune, adolescent, et avec mon père, il m'avait convié. Aller avec lui, et j'étais rentré une fois dans une de ces grottes, du moins, où je me souviens, il régnait une atmosphère particulière, dans une semi-obscurité, les pieds dans l'eau en partie, et malgré un dallage avec et tout cela, avec une sensation non d'étouffer. Mais moi, c'est ce que j'en avais retenu. Et cet équipement va se poursuivre donc jusqu'aux 7 salles. Et en 1954, il y a eu la construction d'un laboratoire donc de surface, et que l'on connaît, le grand bâtiment, surélevé d'un étage plus tard en 1961. Et donc avec des salles pour l'élevage, également des endogés, des salles pour chercheurs, des laboratoires d'histologie, de géologie, de climatologie, également une bibliothèque, une salle réservée à l'élevage d'animaux, destinée à la nourriture donc, de ces animaux cavernicoles, et il fallait les nourrir. Enfin, c'était toute une alchimie, ça. Hein. Au premier étage donc, de ce bâtiment, donc après 61, il y avait le laboratoire de biologie. Et pour assurer tous ces travaux, bien sûr, on a compté entre professeurs, chercheurs, techniciens, à l'époque, je vous parle, il y a plus de 60 ans, jusqu'à 30 personnes. Et alors, il faut savoir que toutes ces installations souterraines ont par la suite servi de modèle pour l'aménagement des grottes laboratoires dans de nombreux pays. Ça, j'avais relevé dans une notice, notamment en Roumanie, en Bulgarie, en Belgique et même au Japon. Voilà. Alors, il faut aussi savoir que la presque totalité des connaissances en matière de caractéristiques biologiques donc de ces animaux souterrains a été acquise à Moulis, et à force de recherche, donc. Ainsi, les protées sont des batraciens, et les seules vertèbres cavernicoles également d'Europe. Véritables fossiles vivants, ils demeurent toute leur vie dans l'eau, malgré leurs poumons et leurs pattes, et peuvent vivre jusqu'à 50 ans. Ça, d'après des études, après leur éclosion, bien entendu. Alors, on constate également que la larve est pigmentée, elle possède deux petits yeux qui vont disparaître insensiblement jusqu'à la pigmentation, donc les adultes dont, deviennent du moins aveugles. Hein, quand ils sont adultes, ils sont aveugles et blanchâtres, presque translucides. J'en avais vu un, puis j'en avais vu également en photo, c'est translucide. Alors il faudra attendre plus de 15 ans pour que les femelles protées soient en mesure de reproduire justement dans des conditions de température de la grotte, soit environ 11 degrés et demi. C'est une température pratiquement constante. La nourriture se compose donc de tout petits crustacés, de larves, de vers que l'on trouve dans l'eau et qui sont détectés grâce au développement exceptionnel de l'odorat et la perception très sensible des déplacements de l'air et de l'eau. Vous voyez, tous ces protées, donc, puisqu'ils n'y voient pas, ils arrivent comme ça à se repérer. Et c'est une vie souterraine, sans lumière, sans horloge biologique. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit. Et ainsi, toutes ces installations ont permis, au cours des années, de reproduire et surtout d'élever des animaux souterrains, coléoptères, également crustacés, d'étudier l'écologie, déjà, vous voyez, de ce milieu biologique, des endogènes. Et alors, également, il y avait des onrectives aquatiques. Alors, c'est qui se nourrit d'animaux aquatiques uniquement. Hein. Et tout cela vivait dans les berges des ruisseaux pyrénéens. Et donc, tout cela, bien entendu, était déjà en voie de disparition. C'était des espèces, malgré tout, protégées, mais ça, je pense, pratiquement disparu. Donc, comme quoi, oui, on se souciait déjà d'une certaine écologie il y a plus de 60 ans. Voilà. Alors, comme on peut le constater, quand même, ce laboratoire souterrain a été longtemps une véritable aventure, bien sûr, pour tous ces chercheurs, hein. Toujours en prospection, hein, en permanence. Et c'est ainsi qu'en cette année 61, M. Bouillon, très connu, j'ajouterai, va découvrir une partie supérieure. Et on allait de découverte en découverte, qui s'élève verticalement, donc ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, sur plus d'environ 100 mètres, ce qui est considérable, qui se termine par une très grande salle, que cette fameuse salle, voilà, maintenant ça me revient, qu'on avait baptisée salle du totem. Voilà. Et c'est une découverte quand même assez importante. Et comme cela, en 1989, là aussi j'avais retrouvé des coupures de journaux, fut fêté donc le 5e anniversaire, surtout en hommage à son créateur, son découvreur un peu, Albert Vandel. Et sous la présidence également, on l'a très bien connu, M. Juberti. Voilà. Qui s'est d'ailleurs beaucoup, beaucoup investi dans ce domaine. Et il faut dire, plus tard, qu'en 91, l'équipe du CNRS, à l'époque, il y avait comme sous la direction de M. Manguin, qui nous a quittés il n'y a pas très longtemps, il y a un an ou deux ou trois, et en collaboration avec des géologues, donc, du Bureau de recherche minéralogique également, minière du moins, et ils avaient réalisé une expérience formidable après plus de 20 ans de recherche. Donc oui, il faut être patient quand on est chercheur. Et cela s'était passé dans le CARST, alors K-A-R-E-S-T, CARST, du Bagée, donc de Balaguer. Et c'est situé très précisément au gouffre de Pereire, grand comme une cathédrale ce gouffre, et dans lequel, à 40 mètres de profondeur, donc, puisqu'on avait, furent installées 6 batteries de pompes, et par des hommes grenouilles, et ça avait été toute une expédition. C'était un véritable test géant, une première mondiale aussi, et qui va consister à pomper plus de 100 000 mètres cubes en quelques jours, dans cet immense réservoir, donc, qui avait été estimé à plus de 4 millions de mètres cubes d'eau. Et alors, cette eau, qui avait été analysée, bien entendu, plusieurs fois d'ailleurs, cette eau qui va être reconnue aussi pure que celle d'Evian. Hein, donc, vous voyez, pas loin de Saint-Girons, il y a une eau très proche, même aussi bonne que celle d'Evian au niveau pureté. Et on va ainsi faire la preuve que les eaux souterraines constituent donc 98% des réserves disponibles en région Midi-Pyrénées. Alors, est-ce que c'est toujours vrai par rapport à maintenant à la sécheresse qui gagne un peu tous les ans? ça on ne peut pas le dire, mais dans ces années-là, donc, ça avait été reconnu après pas mal d'analyses et de recherches. Alors notre région, forcément, est connue depuis longtemps pour de nombreuses cavités, dont une des plus profondes de France, c'est la Haine Morte, ou la grotte préhistorique aussi, également, il faut en parler, malgré qu'elle soit privée et que pas visitable, celle des trois frères, dont Béguin, du Tuc de Doubert, et ça se situe à Montesquieu, et qui sont protégées, ces grottes, également celle du Mazazil, et ainsi le laboratoire, donc, avec les accords des propriétaires, également de l'administration, on avait obtenu la fermeture de certaines entre elles, donc pourquoi ? Pour les protéger. Donc il y a une quantité de grottes donc, qui ont été neutralisées pour qu'elles soient protégées. La grotte de Lic à Moulis, de Sainte-Croix, c'est le nom, mais Sainte-Croix à Gajan, pour sa faune ainsi qu'à une à Rivernaire. Il y avait la grotte de la Cigalère à Saint-Ain, tout ça pour protéger donc, les concrétions de gypse, uniques au monde également. Et il y a énormément de grottes, on ne peut pas en faire l'inventaire maintenant. Mais bon, pour terminer sur cette activité de Moulis de l'époque, donc, il y avait également une station géophysique, car je crois que ça avait été monté en 1957, elle était utilisée, cette grotte, par les sismologues de l'Institut physique donc, du Globe de Paris, pour les études des marées terrestres, également la sismologie à ultra-longue période. C'était une station qui permettait de voir, on peut en reparler maintenant avec ce qui s'est passé en Turquie. Hein. Et cette station avait été installée dans la salle d'argile, qui était située quand même à 400 mètres à l'intérieur et équipée de plusieurs sismographes pendules ainsi dit, fondues, enfin maintenant fonctionnant sous vide, enfin c'était tout un équipement de l'époque, hein, puisque maintenant ça a bien changé avec l'électronique ou autre. Et ainsi donc Moulis était devenu donc une station permanente et où on pouvait y mesurer tous les séismes régionaux, ainsi bien que les séismes fort lointains, en sachant que les Pyrénées, donc, il y a pas mal de séismes de moindre importance, mais il y en a constamment. Et le laboratoire, bien sûr, a évolué ces 20 dernières années. C'est plus contemporain, donc j'en parlerai pas. Mais c'est ainsi qu'il a été le seul au monde, en 1970 aussi, à capter directement donc, une explosion nucléaire aux USA. Et donc, on avait, par rapport à ce qu'on avait relevé sur les sismographes. Et c'est certainement donc que le dernier séisme d'Haïti également avait été enregistré. Et comme quoi, vous voyez, c'est vraiment important, donc, tout ce qu'on avait pu. Après, les chercheurs se sont orientés. Mais à l'époque, c'était un véritable joyau, ce laboratoire scientifique. Bien français, et puis Couzoralet qui est en plus, et qui était le rendez-vous de la recherche internationale. Or, c'est toujours vrai, pas dans d'autres domaines maintenant, et puisque ce labo s'est diversifié, notamment sur la plaine de Caumont, avec là aussi une installation unique au monde, donc, avec, je crois, il y avait une 48 ou 50 cages à population, donc, qui abritaient des insectes, papillons, araignées, donc, vertébrés, lézards, reptiles, amphitries, enfin, il y a pas mal de trucs, donc c'est une station d'écologie expérimentale et donc qui fonctionne, et actuellement je crois qu'il y a pas mal, une cinquantaine ou 60 chercheurs donc sur le site de Moulis, voilà. Alors surtout tout cela vu les conséquences de ce fameux réchauffement climatique dont on parle beaucoup, voilà. Donc j'espère, vous voyez, avec ce petit résumé, je dis bien ce petit parce que c'est très technique en plus, moi je sais que j'ai appris beaucoup de choses, ça m'a rappelé aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas mal de souvenirs. J'aurais été curieux d'ailleurs de revisiter cette grotte. Moi, j'espère, chers auditeurs, vous avoir appris quelque chose, peut-être à certains ou rappeler à d'autres. Moi, c'est mon cas. En attendant, parce que je vous suis fidèle, je vous attends la semaine prochaine, donc, pour d'autres histoires, nos histoires du Couserans.